Alors la question de vous tous, sur les Shindaled. Shindaled, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux lettres en hébreu, Shin et Daled, qui forment le mot qu'il n'est pas bien de prononcer la nuit, qui se lit en français C-H-E-D, avec un accent grave, d'accord? Qui signifie démon, les démons. Alors est-ce que ça existe, oui ou non? Qu'est-ce que c'est que les démons? D'après Chazal, oui, ça existe. Comment sont créés les démons? Ce sont en fait des êtres, comme vous et moi, mais qui n'ont pas de corps. D'habitude, ils sont créés par les semences en vin. Quelqu'un qui fait les semences en vin, ou relation interdite, ce qui revient à peu près au même, d'accord, parce que ce n'est pas utilisé dans le bon sens. Alors ça crée des êtres, parce que chaque relation crée des êtres, mais des êtres sans corps. Alors quelqu'un pose la question, alors qu'est-ce qu'on se passe maintenant si on a une relation qui n'amène pas d'enfant, une femme qui est stérile ou ménopausée, ou je ne sais pas moi, tous les cas. Non, vu que ça va dans le cadre de ce que la Torah permet, donc ça crée aussi une réalité spirituelle, mais bénéfique. Lorsqu'on fait une relation qui est interdite par la Torah, ça crée une réalité spirituelle maléfique. Réalité spirituelle maléfique égale ce qu'on appelle démon. Alors, est-ce qu'ils ont des cornes et des pieds Je ne pense pas. Néanmoins, je vous cite maintenant de Gemara qui en parle. Traité Brachot, page 6, recto. Quatrième ligne. Tania, on a un enseignement. Abba Binyamin, Omer. Abba Binyamin dit. Il m'allait nitna reshut la ein lirot. Si l'œil pouvait voir. En kol briya yechola amod mipnei amazikin. Aucune créature ne peut survivre par rapport aux mazikin. Ce sont donc les démons. Mazikin, la traduction mazikin en hébreu, ce sont des endommageurs, des maléfiques. Des forces spirituelles maléfiques qui ont le pouvoir de faire du mal. Alors, leur pouvoir, il est quand on les voit. Quand on ne les voit pas d'habitude, ça va. Mais si on les voit, il y aura une histoire un peu plus tard, là, c'est terrible. On peut pas c'est la crise cardiaque, normalement, sur place, d'accord? Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont des crises cardiaques en voyant ceux-là. Ben, ils ne sont pas restés en vivant pour le raconter, mais on dit cela.
Du fait de leur aspect?
Ouais, ça fait un peu peur. Ça fait peur, paraît-il.
On a discussion
de leur aspect? Hein? On va voir ce qu'on peut avoir ici comme. Amar Abaye, Adi Abaye. Inhu Nefish et Minan. Ils sont plus nombreux que nous. Alors, il y a 6 milliards d'habitants. Tu as au moins 8 milliards de. Mais Kaima Alan, qui Kisla le Ougia. Ils sont autour de nous comme Kisla le Ougia. Rachid va dire sur place. Comme. Vous savez, autour des arbres, on fait une sorte de petit monticule. Une sorte de barrière en terre. On veut arroser l'arbre, alors on veut pas que l'eau s'éparpille partout, alors on fait une sorte de cercle autour comme cela. Alors comme ça, ils sont autour de nous comme un cercle, et ils sont autour de nous comme cela. Amar Ravuna, Adi Ravuna, Kol Chal Vechad Minan, chacun d'entre nous, Alpha Mismale, il en a 1000 à sa gauche, Urvata, Mimine et 10 000 à sa droite. Chacun de nous, il a 1000 démons à sa gauche et 10 000 à sa droite. D'où on apprend cela, c'est marqué dans le Tehilim 91, Ipol mitzedecha elef, Urva miminecha. Ipol mitzedecha, de ton côté, vont tomber 1000 et Rebava, 10 000, Biminecha, à ta droite. Donc, de côté, on comprend que c'est la gauche. D'ailleurs, en parenthèse, avant d'aller dormir, on ne veut pas se faire encliquiner par ce genre de créature maléfique. Alors, après Shema Israël, on dit quelques versets de protection, dont ce verset-là, le 91. On ne le dit pas en entier, on dit exactement 60 mots de ce verset-là, par rapport aux 60, c'est une phrase aussi qu'on dit là-bas, les 60 voici le lit de Shlomo. Shishim Giborim Savivla. 60 Giborim, vaillants héros, d'accord, des soldats puissants, sont autour. Ce sont des forces spirituelles, 60, qui nous protègent des forces maléfiques. On fait Birkat Kohanim, Yevarech Hashem Vishmecha, ça en tout, ça 60 lettres. Et on dit ce Tehilim 91, Yoshev Beseter Elyon, qui a 60 mots. C'est ça la protection divine qu'on a autour de notre lit, comme ça 60, qui nous protège de ces affreuses bébêtes. Faire attention de ne pas aller au lit, même quand on est fatigué, il faut avant d'aller dormir, dire ces versets-là. Si possible, c'est bien de dire tout cela avant minuit. D'accord, le vrai tikkun de Kriyat Shema se fait avant minuit. On va en parler ultérieurement.
Si on parle après, c'est pas trop grave.
Hein. C'est pas trop grave. Amar Rava, Adi Rava, Hay Dorka Dave Bekala. Kala, c'était à l'époque, il y avait une partie des élèves qui étudiaient, une partie des juifs qui travaillaient dans les champs, etc. Maintenant, ils avaient quand même deux fois un mois de, pas de vacances, de mois shabbatique, au mois de Nissan, vers Pessah, et au mois de Tishrei, ils arrêtaient tous d'aller travailler dans les champs et allaient à la yeshiva pendant un mois. Les grands rabbanim enseignaient là-bas. Qu'est-ce qui se passe quand beaucoup de monde qui viennent au cours et la salle, alors les gens se servent. Les gens sont serrés. On est comme des sardines. C'est marqué Agra de Kala Dorka. La récompense qu'il y a d'aller au Kalas, à ces grands shiurim, à ces grands cours de Torah, quelqu'un qui ne comprend rien. Avec qui enseigne là-bas? Abaye, Rava, Shmuel, des génies extraordinaires. Les gens étaient beaucoup analphabètes. Ils ne comprenaient rien. C'était des géants en Torah. Ils parlaient de choses très très hautes. Alors ceux qui comprenaient Tabli Chachamim, les sages, ils comprenaient. Ceux qui ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas. Alors ils allaient quand même. Qu'est-ce qu'ils avaient? Dorka. Dorka, c'est quoi? La pression. Ils étaient comme des sardines pendant une heure comme ça. Ils transpiraient. Il ne fait pas très froid en Israël, ni à Babel, en Babylonie, il fait très très chaud là-bas. Donc ils transpiraient énormément. Cette pression, c'était le mérite qu'ils avaient. Nous dit Rava. Cette pression qu'il y a au Kala, à ces cours-là, minayuhave, ça vient de eux. Parce que chacun de nous maintenant, on a 1000 à gauche et 10 000 à droite, ça prend comme un peu de place, d'accord? Au niveau des ondes, c'est quelque chose de... C'est pas que le physique, il y a ici une pression un peu bizarre. On voit que dans le temple, c'est tout le contraire, il ne faut pas rentrer dans le temple, c'est bébête, d'accord? Dans le temple, c'est marqué, omdim sufim, on se tenait, quand on était debout, on était serré. Parce que tout Am Israël devait rentrer dans le temple. Tout Am Israël. Alors, pour pas tout le monde rentrer, on rentrait de tour à tour, mais quand même, il y avait quand même une très grande pression. Et la Hazarat Israël, c'est-à-dire la partie où les Juifs pouvaient se mettre, la Hazarat, il y a la Hazarat Kohanim, que les Kohanim peuvent aller, et il y a Hazarat Israël. Hazarat Israël, elle faisait, combien faisait le temple de long? Peut-être on va dire 50 mètres, sur 11 amas sur 5 mètres. 5 mètres sur 50 mètres, il fallait que tout le monde se mette là-dedans. Évidemment, ce n'était pas possible, donc ça débordait sur les bords et les galeries. Les galeries autour, on pouvait aussi se mettre. Donc, dans les galeries autour, il y avait tous les juifs qui étaient là. Maintenant, quand ils se tenaient debout, c'est marqué Omdim Tsefufim. Debout, ils étaient Tsefufim, c'est quoi? Serré. Ça vient de la racine en hébreu Tsaf. En hébreu, Tsaf. C'est quoi Tsaf? C'est quoi Tsaf? Flotte. Ils étaient tellement serrés qu'ils flottaient. Essayez une fois d'aller à Méron. Lac Boromer. Il y avait une salle qui peut recevoir normalement 100 personnes, tu en as 2000. Alors c'est extraordinaire, tu peux soulever les pieds et tu tombes pas. Tu te balades comme ça, tu ne sais même pas où tu veux aller, tu vois, là-bas c'est impossible, tu suis, il y a une sorte de courant qui... Voilà. Et il fait très très chaud. Dehors il fait froid, dedans c'est une minute et en eau. Très, très chaud. C'est ça. On était serrés comme des sardines. Tsfoufim, serré, ça veut dire on flotte. On flotte. Dit la Mishnah, c'est une Mishnah dans Avot, ou Mishtachavim Revahim. Quand on s'inclinait, enfin se prosternait devant Dieu, il y avait de la place. Il y a un miracle qui se passait au temple. Non seulement, pourquoi? Quand je me prosterne, je dois faire vidouille. J'ai péché. Avec la voisine, j'ai le voisin qui est à côté. S'il entend ça, ça va faire des histoires. D'accord? Je parlais à Shonara sur mon directeur, il est juste à côté. Il ne faut pas le dire. Alors, il y a un miracle qui se passait, ce qu'il y avait 4 amotes, 2 mètres de distance entre chacun. Sans qu'on ne puisse pas entendre chacun qui fait le bidouille. On se prosternait comme cela. Et de même, tous ceux qui étaient dans les galeries ne pouvaient pas se prosterner, parce qu'ils pouvaient se prosterner en face de Dieu. Donc, miraculeusement, tout le monde se retrouvait maintenant dans ces 50 mètres sur 5 mètres, et tous se prosternent, et il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est un des miracles qu'il y avait au temple. Au temple, il n'y avait pas de place au niveau physique. On rentre dans une sphère métaphysique. On sait bien que dans le temple, dans le Saint des Saints, il y avait l'arche. L'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi. Le Saint des Saints, il faisait 10 coudées d'un mur à un mur. Maintenant, si je comptais, je mesurais du mur jusqu'à l'arche sainte, il y avait 5 coudées. Je mesurais de l'arche sainte jusqu'à l'autre mur, il y avait 5 coudées. Comment ça se fait? C'est-à-dire que l'arche sainte ne prenait pas de volume. On vivait dans une autre dimension. Einstein a dévoilé cela. Einstein te dit, tu prends maintenant un bâton qui fait un mètre. Tu le mets maintenant dans une navette spatiale qui voyage à la moitié de la vitesse de la lumière, 150 000 km à la seconde. Ce bâton, il fait la moitié de sa grandeur. Pas parce qu'il y a un frottement de l'air. Il n'y a aucun frottement d'air, tu es dans la cabine fermée. Mais la vitesse, la différence de réalité physique, elle, au niveau de la vitesse, elle a une influence sur la matière elle-même. Quant à la présence divine, c'est autre chose. Il y avait des miracles extraordinaires au temple. Je vais pas, c'est un peu pas mon sujet maintenant, mais il y avait des miracles extraordinaires. Donc, nous dit Zizi Chazal, le rabbin nous dit, sache que la pression qu'il y a lorsqu'on va au cours, c'est parce qu'eux sont là. Sinon, il y a tellement de sainteté qu'on ne devrait pas être en pression, comme au temple, en tout cas, presque comme au temple. Ils sont autour de nous et le Gaon de Vilna dit un très beau vort là-dessus, un très beau jeu de mots. C'est marqué, donc, Agra de Kala, la récompense du Kala d'aller à ses cours de Torah, Dorka, la pression qu'il y a. Kala signifie aussi quoi en hébreu? Kala signifie la fin. Lo tichle rachamecha. Tichle, c'est la même racine, n'arrête pas, ne finis pas ta miséricorde pour nous. Dieu va voir la tour de Babel, non, il va voir Sodome, il dit, Aketsa Akata, si c'est vraiment comme j'entends maintenant la voix qui monte de Sodome, qui font des choses horribles, Kala, je les termine, je les ratatine, c'est la fin. Kala signifie la fin. Gaon de Vilna, le mérite, la récompense de Bnei Israël à la fin des temps, c'est la pression. Il y aura de la pression, ça sera dur. Ça, c'est la récompense. C'est pas normal. On ne peut pas arriver à la pression à la fin des temps. Les douleurs d'accouchement du Messie, il y a de la pression. C'était entre parenthèses, je suis en parenthèse, parce que c'était avoir le sujet un peu de... savoir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La pression de la fin des temps. Continue la Gemara. Hani bicher deshale minhayo. Les genoux fatigués. Il y a ce que c'est. Quelqu'un, il a fatigue dans les genoux. Dit la Gemara, ça vient de eux. Hanimani le Rabbanan des Balou, les habits des Tamir Hachamim qui rapidement s'usent. Parfois, Yeshiva, vous allez, leurs habits sont très souvent usés. Ça vient d'eux. C'est du frottement de ces bébêtes. Hani Kar'e de Menafkan. C'est un truc extraordinaire, ça. Les pieds qui reçoivent des coups. Les pieds, tu prends un coup, tu marches, tu as ici une table, il n'y a aucune raison, toujours tu sais mettre un pied à côté de l'autre, c'est pas trop compliqué, c'est depuis que tu es petit. Bizarrement, ton pied, il part, pouf, il se ramasse un coup, et des fois, tu souffres terriblement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit croche-patte de... tac, ils ont envoyé ton pied, pouf! Oui.
C'est pas lié à quelqu'un qui est marqué, ce qui fait une avéra, il crée un...
Mais quelle avéra? Celle dont j'ai parlé. Spécialement, en tout cas. Mandeva Lemida, celui qui veut voir que ça existe. Laïti Kitma, qui l'amène descendre, et qui les met autour de son lit, et le matin, il verra Kare Tarnegolta. Il verra des traces de pattes de Tarnegol, de poulet. C'est vrai qu'en arabe, on appelle les démons Jaj. Comme djinn, ils ont traduit en français djinn, d'accord? Jal, c'est poulet aussi.
Et ça, c'est dangereux?
Essaye. Haïman de Baël et Mechzinhu, celui qui veut les voir. Comment on fait pour avoir ces bébêtes-là? Alors je dis le truc, mais je vous demande de ne pas le faire parce que c'est très dangereux. La Gemara donne le truc. Alors tu notes bien. Je vois que tu es en train de noter. Bon, on peut le voir, c'est connu, c'est la page 6 de Brachot, mais qui n'est pas rigolo qu'elle le faire parce que normalement on ne s'en remet pas de ça. Liti, qui l'amène, Shiliata, Shiliata, la Shilia, c'est le placenta. Qu'il amène un placenta d'une chatte noire, fille d'une chatte noire, Bukhata, aînée. Elle-même fille d'une chatte noire, aînée. Donc il faut des chattes noires aînées. Hein? Non, non. T'as des chats noirs ici partout, t'en as. À Paris aussi. Hein. Faut qu'ils soient aînés. Faut faire attention que ça, faut qu'il est petit comme ça. Et c'est une chatte. Et qu'il y a une relation avec un chat. Et un petit de nouveau, une petite qui va être aînée. Et le troisième, tu prends le troisième et tu le grilles. Vélikle benoura. Vélishreke. Hein? Ouais, le placenta, ouais. Tu grilles le placenta, va les chercher, et après tu le, t'en fais de la poudre, limle ene mine, t'en remplis les yeux, tu mets les yeux. Vechazilou, et tu les verras. Vishdaye, begouzade parzela, velertemen begouchpanka de parzela. Et tu le mets après dans un flacon de fer, que tu fermes avec un tampon de fer aussi. Dilma ganve mine. Parce qu'eux, ils veulent pas qu'on les voit, alors ils risquent de le voler. Si tu le gardes, il faut le mettre en truc de fer fermé en fer. Et tu vas aussi le. Tu mets un tampon, comme je l'ai dit, avec en cire, comme ça, pour pas que tu sois nizok, pour pas qu'ils viennent et te fassent des. Ils n'aiment pas qu'on fasse cela, c'est dangereux. Bon, est-ce que vous prenez cela au premier degré? J'ignore. Rabibi Barabaye, le fils d'Abaye s'appelait Rabibi. Abadar, il a fait ainsi. Chaza, il les a vus. Veitzak, et il était. Il allait mourir. Tombé malade, très gravement, choc émotionnel accompagné de crise cardiaque et de. Non, il ne devait pas survivre. Baou Rabbanan Rachamé Ale. Les Rabbanan, les Rachamim, ils ont prié pour lui. Veitse, et il a guéri. Donc nous déconseillons, messieurs, de faire cela, parce qu'on n'a pas aujourd'hui des gens de calibre qui peuvent prier pour quelqu'un qui a fait la bêtise de voir cela. Donc il y a une réalité pareille. Nous ne les voyons pas, Baou Hachem. Mais il se peut qu'ils font des choses qui sont un peu négatives. C'est pour ça qu'il est bien, comme j'ai dit, de faire Kriyat Shema à la Mita. Et c'est marqué que celui qui fait Kriyat Shema à la Mita, de façon avec beaucoup, beaucoup de conviction, je rappelle, vous savez, avant le mini-juif, alors il peut détruire 1125 démons par une fois que tu fais Kriyat Shema le soir. On t'en enlève comme ça des tonnes. Oui.
C'est vrai que Rachid les a.
Alors, il y a un bruit qui court comme quoi Rachid les aurait. Ça m'étonnerait parce que j'ai des témoignages. Et du côté de ma famille, de la famille de ma femme, il y avait grand-mère qui avait des histoires avec. Mon père m'a raconté qu'au Liban, il y avait en bas quelqu'un de. Où ils habitaient tout le bâtiment, il y avait quelqu'un qui s'appelait Matloub. Matloub, un juif. Et il paraît que lui, il avait des affaires avec les démons. Et mon père m'a raconté. Mon père, c'est pas un illuminé, d'accord. Et on voyait comme ça, du coup. Paf, il giclait comme ça à 10 mètres. Il était assis. Tac, il sautait comme ça et il se retrouvait à 10 mètres à côté. Comme s'il a reçu une gifle extraordinaire. Et au Maroc, ma femme a du Maroc, ce sont des histoires extraordinaires de trucs pareils. Bon, heureusement qu'on n'a pas ce genre d'expérience. Il y a une réalité qui ressemble à cela, qui est plus courante, on va dire. C'est celle d'âmes errantes de personnes qui se sont mal comportées sur Terre. Et quand ils sont décédés, ils ne peuvent pas arriver à leur place, ils sont poursuivis par leurs péchés. Quand tu fais des péchés, tu crées des réalités métaphysiques maléfiques qui te poursuivent. Et ils vont des fois se réfugier dans le corps de quelqu'un. D'habitude, ces personnes, elles leur ont fait un petit péché, parce qu'elles ont mangé sans faire la bracha. Où il s'est énervé, donc son âme a quitté, et lui, hop, il rentre à la place. Et tout à coup, il y a une histoire dernièrement, il y en a d'autres qui sont avec des témoignages de grands de la Torah, avant la Seconde Guerre mondiale, Rav Chanan Wasserman, élève du Chafetz Chaim. Il y a beaucoup d'histoires de ce type-là. Il y a un livre entier qui a été écrit par le Rav Chacham Yehuda Ftaya, élève du Ben Ishraï, Rav Yehuda Ftaya, un livre extraordinaire qu'il est dur à acquérir sur le marché, que je recommande de ne pas lire la nuit, à Orochot Mesapot, les esprits racontent. Et là, il te raconte comment lui se mettait, donc on lui a amené des personnes qui étaient prises par ce genre d'esprit, ils se mettent à parler avec une voix différente. Il te raconte toutes les ordures que tu as faites durant ta vie, et donc les gens fuient, ils ont peur de rester là. Et il est très dur, d'habitude il veut pas se dévoiler. Alors lui allait, il parlait dans le rêve, il faisait des hashbaot, des conjurations au nom de nom de Dieu. Il rappelait des noms de Dieu et les conjurait de se dévoiler et dire qui, quoi, comment. Et eux ne pouvaient pas faire autrement parce que tu les conjures avec le nom de Dieu et se mettaient en contact avec ce sage et lui leur faisait leur tikkun, il les réparait, etc. Mais il y avait des combats terribles. Il raconte un livre entier, en date du tatatata, on m'a amené la jeune fille, tatatata, et voilà. Et il a eu en contact longtemps pour réparer l'âme de Chaim Tatzvi, par exemple. Chaim Tatzvi, c'est le faux messie, il y a 400 ans, qui a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Il a fait son tikkun. Il y avait une histoire du temps du Rav Chanan Wasserman, comme je dis. Une jeune fille avait bu à la fontaine sans faire la bracha, et une âme est rentrée dedans, et personne n'osait rentrer, parce que chaque fois qu'une personne rentrait, elle lui disait tous les ordures, tous les avérotes, tous les péchés qu'il a fait. Ils ont appelé le Rav Chanan Wasserman. Et l'âme, quand elle a senti l'âme, le rachat qui habitait cette fille, il a senti qu'il commençait à trembler. Et le Rav Chanan Wasserman est venu, il a posé des questions, etc. Si je me souviens bien, l'histoire de cette âme-là, c'était quelqu'un qui était décédé il y a quelques centaines d'années déjà. Il avait des parents de Sadiki, mais lui a quitté la Torah. Et alors, Avarsan lui a demandé pourquoi tu n'as pas fait de choix avant de mourir. Il était sur le cheval et il est tombé du cheval, il est tombé sur la tête sur un gros caillou. Il est mort comme ça, il n'a pas eu le temps de faire de choix. Et là, il revient donc dans cette pauvre fille. Et il ne voulait pas la quitter. Parce que s'il la quitte, il est poursuivi par toutes ces forces maléfiques qui l'a créé, qui le poursuivent. Alors, le Rav Chanan Wasserman a menacé que s'il ne sortait pas, il amenait le Chafetz Chaim. Alors là, il avait trop peur, la sainteté du Chafetz Chaim. Il a demandé comment construire le Chafetz Chaim dans le ciel. Alors il a dit Tanale, c'est un petit Tana. Tana, c'est un enseignant de la Mishnah. Tana! Un petit Tana. Tellement était grand le Chafetz Chaim. Pour finir, donc, il a réussi à le faire quitter le corps, mais il faut aussi, on le conjure de quitter le corps sans faire de mal. Parce qu'il peut quitter, en parlant qu'il parle le pied, il n'y a plus de pied. On demande qu'il quitte du petit doigt entre l'ongle et le petit doigt. Et alors, on raconte que ça gonfle énormément, le doigt gonfle et pif, tout à coup, ça sort, et ça saigne un peu. Et il y a un trou dans la fenêtre aussi, tac, et là, comme ça, elle est partie. C'est l'histoire qu'il y avait du temps du Rav Chanan Wasserman, si vous souvenez bien de tous les détails. Mais il y a beaucoup de cas très courants. Aujourd'hui, il n'y en a plus tellement, il y a eu le cas il y a 2-3 ans, et voilà, qui a été filmé. Connu aussi à Jérusalem. Hein? Ouais, il y a 5 ans, 6 ans, comment c'était? 7-8 ans. C'était le Rav Batsri. Ah, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Eh, tu comprends, les gens n'aiment pas qu'on raconte des trucs pareils. Alors, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il connaît un arabe qui était là-bas, qui a dit je ne sais pas ce que les gens veulent. Moi, j'étais là-bas, j'ai tout vu, pourquoi les gens parlent. Ouais, bon. Soit vrai ou pas, peu importe. En tout cas, c'est une chose qui existe. S'il n'existe pas maintenant, elle existait avant. On a des témoignages des gens très, très sérieux là-dessus. Il y a un rabbin que je connais à Ramat Gan qui est un élève du Rav Chacham Yehuda Ftaya. Lui, c'est marrant parce que il s'est modernisé. Parce qu'il faut faire des lachashim, il faut faire des formules à voix basse dans l'oreille de la personne. Et la personne ne comprend rien, ce sont des noms de Dieu. Et on parle directement en fait à l'âme qui a envoûté cette personne. Alors lui, comment il fait? Il fait beaucoup mieux. Il prend un stéthoscope, ce que les médecins ils ont pour. Alors il met les oreilles à la personne et lui il parle dans le stéthoscope comme ça. Et j'ai vu comme ça il fait, ouais. Ah ouais, ça marche, parce que ça fait des. Ouais, il rappelle des noms de Dieu, des choses comme ça. Bon.
Les finalités sont spirituelles. Enfin, quand on sait que ça a un impact sur la matérialité, par exemple, quand il marche le sable, il y a encore la trace de 3
autres. Ouais, j'imagine que, comme beaucoup de choses qui ont un impact, Beaucoup de choses spirituelles ont un impact sur la réalité. Tu vois bien que, par exemple, tu prends la table. Elle est réelle ou elle n'est pas réelle? Elle est réelle. Mais de quoi elle est faite? D'atomes. De quoi les atomes sont faits? D'un noyau et d'électrons. Maintenant, on sait très bien que même l'électron, même le noyau, ils n'ont pas fait de matière, ils ont fait d'énergie. Donc en fait, c'est tout de l'énergie. Donc, en fait, quand on dit spirituel, c'est de l'énergie que tu ne vois pas. Quand on dit matériel, c'est de l'énergie que tu vois. Mais tout est énergie. Donc on peut comprendre qu'il y a une interférence entre le spirituel, et le rêve. C'est une chose qui existe.
Ah, vous pouvez raconter une histoire qui fait peur un peu.
Non, je sais pas l'histoire qui fait peur.
Hein? Le rôle, pourquoi ça fait... Vous avez dit qu'il y avait des âmes errantes, mais pourquoi... pourquoi ils sont là, quoi, en gros? Pourquoi j'aimerais créer ces démons-là, quoi?
Non, j'ai expliqué. C'est que toi, tu es libre de faire le bien et le mal. Maintenant, quand tu fais le mal, c'est pas une chose qui est physique. Le mal, en soi, c'est une chose qui est métaphysique. Tu prends maintenant un chien, il te voit en train de tuer quelqu'un. Ou de violer une dame. Pour lui, c'est rien, c'est pas mal. Physiquement, il voit un acte physique. Le mal est dans la spiritualité. Donc, et ça crée une réalité spirituelle, maléfique, de mal. Cette réalité, elle est là. Maintenant, quand quelqu'un meurt, il quitte son enveloppe physique et il rentre dans le monde qui est que métaphysique. Son monde métaphysique, il existe, mais quand il est dans son monde physique, il ne le voit pas. Que des gens très très purs peuvent arriver à avoir dans leur physique une conscience de leur monde métaphysique. C'est des gens qui ont Ruach HaKodesh. Ils te voient, ils voient tout. Ruach HaKodesh, d'accord. Des gens qui, en te voyant, ils voient tout le métaphysique qui t'accompagne. Et c'est un très haut degré. Les gens normaux, ils ont une conscience métaphysique et très peu de conscience métaphysique. Mais quand le corps meurt, fini, l'être métaphysique qui reste, il voit tout cela. Et faisant partie de leur monde, donc il est vulnérable, il est poursuivi, parce qu'il y a un... Ces forces métaphysiques, quelque part, elles ont une vie, elles ont été créées. L'auteur de ces forces métaphysiques négatives, c'est lui. Donc, elles lui en veulent. Tu m'as créé dans le mal.
Et je te donne un truc, quelle est leur influence sur nous aujourd'hui, vivants?
Ah oui, bien sûr, ça peut avoir. Tous les sales coups qui nous arrivent, c'est ça. En gros, la souffrance que quelqu'un a provient toujours d'une source métaphysique de mal, qui d'habitude est créée par nous. Maintenant, cette source métaphysique de mal, on lui a donné de la vie. Le mal, c'est une chose qui n'a pas de vie, c'est la mort. Quand tu prends ton énergie divine de vie et tu lui fais une piqûre, tu lui inocules de la vie, tu lui donnes de la force. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut, vu qu'il est mal? Il veut tout casser. Qui va casser? Celui qui l'a créé. Alors, il y a deux façons de l'éliminer. Ou bien par la souffrance, et quand il souffre, donc quelque part, le mal qu'il a en lui s'est réalisé, donc il n'a plus d'être. Ou par la tchouva. La tchouva, c'est que tu lui retires toute la vie que tu lui as donnée, toutes les forces divines que tu lui as données, c'est pas une kapara, mais c'est mieux que la kapara, c'est que tu n'as pas fait tchouva, alors il faut te nettoyer. Ok, alors c'est ça. Il faut éliminer ces forces négatives. Si tu fais tchouva, comment tu l'élimines? En douceur, c'est que tu lui retires la vie que tu lui as donnée. Ton pote, c'est quoi un péché? Un péché, c'est prendre de la vie et faire passer dans le mal. Tous les mots péché viennent péché, ça vient, c'est la lettre à l'envers du mot shefa. Pécha en hébreu, péché c'est pécha. Pécha, c'est à l'envers, c'est une permutation à l'envers du mot shefa. Shefa signifie flux d'abondance. Tu reçois de Dieu un flux d'abondance de vie et tu l'as mis à l'envers, tu l'as pris pour le mal. Alors que c'était pour toi, pour faire le bien. Dieu veut que tu fasses le bien, que tu sois un ustensile de bien. Rachat, ça vient, c'est le mot SR à l'envers, 10. Tu as pris les 10 sphères, c'est d'où tu as un flux qui vient de Dieu par les 10 sphères, tu fais à l'envers de nouveau. Avon, ça signifie péché aussi. Ça vient du mot Ivut. Avon, ça veut dire tordre. Tu as pris le flux, tu l'as fait. Chet signifie rater. Tu avais une puissance maintenant de faire le bien, tu as raté, ça allait aller dans le niet, dans rien du tout. Et dans l'ordre, chet c'est le moins grave, après Avon c'est plus grave, et péché c'est le plus grave. Karet, que quand tu as pris la force la plus haute, qui est celle du Keter, Keter c'est la sphère la plus haute, la couronne de Dieu, et tu as aussi ta fille à l'envers. Keter, Karet, c'est un niveau que tu casses tout. Donc toujours, le mal, il ne peut être que par le fait que le bien lui donne.
Donc c'est le fruit du Yetzer Hara, mais une fois qu'il est créé, en fait, c'est un soutien au Yetzer Hara.
Oui et non. Le Yetzer Hara, à la base, quand tu es né, tu as un penchant vers le mal, un penchant vers le bien pour que tu aies le libre arbitre. Donc, quand tu vas, tu suis le mal, alors tu donnes, c'est vrai que tu donnes, tu crées une réalité de mal. C'est pas le penchant du mal, tu crées une réalité de mal, mais c'est vrai qu'une fois que tu as créé cette réalité de mal, alors elle aussi, elle va t'attirer à faire plus. Quand tu crées une réalité de mal, ce souffle de mal, il te pousse, il te pousse à refaire encore le mal. Quand quelqu'un fait le mal, c'est très dur de s'en sortir parce qu'il est entouré de cette touma qu'il a créée. Elle le pousse sans cesse. C'est très dur de s'en sortir. C'est ça la difficulté de la tchouva. C'est la grandeur de la tchouva. Que quelqu'un fait à Kippour, c'est très clair. Celui qui a utilisé Kippour maintenant, il avait des habitudes, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il a fait une tchouva totale en pleurant. Il voit qu'il arrive relativement très facilement à s'en sortir. Parce que ça marche. Ça marche. Une fois que tu peux, par le souffle de pureté, tu peux éliminer le souffle d'impureté. Mais durant toute l'année, tu rentres là-dedans, ce n'est pas une belle grande chouva, c'est beaucoup plus dur, parce que quand tu donnes, quelque part, tu as un peu de toi, de ta sainteté, c'est-à-dire de ta vie, qui est là-bas. Donc, tu es attiré. Chazal, on dit, je m'excuse, il y a un petit organe chez l'homme, celui qui le rassasie, il est affamé. Celui qui l'affame, il est rassasié. Et c'est tellement vrai. Je m'excuse, je continue, regarde, Regarde au niveau, bon, ça c'est au niveau sexuel. Au niveau de tous les yetzera qu'il y a. Quelqu'un, le jeu. Il va jouer. Il n'est pas accro, mais quand il joue un peu plus, il devient accro. La drogue. On devient accro. Ce n'est pas seulement une dépendance physique. C'est métaphysique. Tu rentres dans un truc. Regardez, pas besoin d'aller très loin. Quelqu'un qui arrive une minute en retard à la prière. Une minute. Il doit faire des efforts considérables pour arriver à ne pas arriver en retard à l'heure. C'est très très dur pour lui. Et la minute, elle augmente toujours une minute, après une minute trente. Très très lent, hein, c'est aux 10 secondes par jour. Pourquoi ? Parce que tu donnes dans le mal. Tu donnes. Il te tient. Et arriver à s'en sortir. Essayez. Moi, je fais l'expérience des fois. Je veux arriver une minute avant. Je m'excuse. Je veux arriver une minute avant. Les efforts à faire, c'est inutile. Tu vois, tu vois qu'on t'empêche du ciel. C'est lui qui t'empêche. Tu as tellement donné, maintenant, il te met des barrières. Tu as le libre choix d'aller et de les éclater, ces barrières. Mais c'est très dur, tu as créé des barrières. Quand tu donnes dans le mal, tu fais partie de lui. Alors, il faut se déchirer, la tchouva, le regret, la prière à Dieu, l'effort qu'on se l'a. Sinon, en plus, on a un kippour qui passe par là. Le kippour, ça nettoie beaucoup. Et on peut repartir sur des bonnes bases. Ah, je m'excuse. Alors, c'est le tour à notre cher ami.
Il y a une explication pour 1000 démons à gauche et 10 000 à droite.
Pourquoi ?
C'est pas...
Pourquoi 1000 et 10 000 ? Ou pourquoi plus ou moins ? Le plus ou moins, j'ignore pourquoi 1000 et 10 000. Je pense que le plus du côté de la sainteté. Donc, eux, toutes les forces du mal, elles s'attachent toujours à la sainteté. Partout où il y a de la lumière, là-bas, ils s'attachent. C'est comme les mouches. C'est comme les moustiques la nuit. Tu mets un projecteur, ça attire les moustiques. Autour, c'est toujours, tu vas toujours voir que autour de la sainteté, tu as la touma. Regarde, prends Jérusalem. Tu as le Saint des Saints. Qu'est-ce que tu as autour ? La plus grande concentration de mosquées et d'églises au monde. C'est clair. Tu as Bnei Brak. Qu'est-ce que tu as autour de Bnei Brak ? Tel Aviv et tout. Bien sûr. Je crois que tu n'as aucune Avodah Zara au monde qui n'a pas son consulat ici à Jérusalem. Tu n'as pas rien. Tu as tout ce que tu veux. C'est les machins, toutes sortes de trucs baba qu'il y a. Les trucs, ils sont ici.
Est-ce qu'après la mort, on est encore victime de nos manques qu'on n'a pas réglé sur Terre ?
Oui, bien sûr.
Et est-ce qu'il reste drogué après la mort ?
Il ne reste pas drogué, mais il reste limité. Parce que la drogue, c'est quoi ? C'est être dans le flop. C'est pas être dans la réalité. Tu es ici pour servir Dieu dans la vraie réalité de Dieu. Et toi, tu crées un autre monde. Alors, ce monde-là, il a l'air d'être vrai. C'est comme un film. Attends, quand tu vas mourir, après 120 ans, tu travailles du film. On dit, qu'est-ce que tu as vécu? J'ai été vécu dans le film. Mais non, c'est un film. Qu'est-ce que tu as vécu? Je n'ai pas vécu. Donc, tu as un vide. Et tu vois, là, Mama, on t'a donné maintenant 120 ans pour vivre, pour te réaliser. Et tu n'as rien fait. C'est-à-dire, le flop, le shit. Où c'est marqué, Dieu a créé le shit. C'est où c'est marqué? C'est marqué dans la Gemara. Bara shit. Bereshit. Bara shit. Dieu a créé le shit. Alors, la Gemara a dit pour autre chose. Shit, c'était les shitines. C'était, il y avait un trou qui sortait de l'autel qui descendait en bas. C'est marqué, genre en bas dans les précipices. Alors, c'est marqué depuis la création, ils sont créés. Alors, la Gemara dit Bara, Dieu, Bara shit. Voilà. Bauch Adonai, l'homme.